Cher Père Elias Zelaoui, on vous connaît bien autour de la question de Myrna, où s'opèrent des phénomènes absolument formidables à Souffagnier. Je me demande qui vous êtes en deux mots. Pourriez-vous m'expliquer qui vous êtes?
Je suis un prêtre arabe, Melkite, natif de Damas.
Où se déroulent les choses extraordinaires.
Exactement.
Depuis plus de 20 ans.
Et en poste à Damas depuis 62 d'affilée. J'ai été ordonné en 59 à Damas même.
D'accord.
Nommé à Beyrouth dans un collège où je suis resté 3 ans.
Mm-hmm. Vous étiez professeur.
Professeur, directeur, disons.
Ah bon, directeur.
De la discipline dans l'école.
Ah.
Chargé d'un tas d'autres choses. Mais au bout de 3 ans, j'ai présenté ma démission par écrit au patriarche en lui disant « Je me suis fait prêtre pour travailler dans une mission, non dans une boutique. »
Ah bon, vous aviez une âme missionnaire déjà.
C'était le patriarche Maximus IV. Un homme que vous avez dû connaître, je crois.
Un oui.
Exceptionnel.
Et j'ai reçu ici le patriarche Maximus V.
Ah voilà, 5, ok. Mais il est bien différent de 4, Maximus IV. C'était un grand apôtre l'autre, mais un homme d'une intégrité étonnante et qui n'entendait pas qu'on le critique. Voyez. Et traiter un collège tenu par des prêtres de boutique, c'était un peu trop pour lui.
Oui, j'imagine.
Finalement, il a accepté, puis il m'a demandé d'aller à Damas. Et à Damas, j'ai demandé à ce que je sois détaché pour le travail auprès des jeunes.
Auprès des jeunes?
Auprès des jeunes. J'avais à l'époque 29 ans.
Mm-hmm.
Et depuis, je reste dans mon apostolat en souci permanent des jeunes. Même nommé en 77 dans une paroisse nouvelle à Damas, qui s'appelle la paroisse Notre-Dame de Damas, qui a été inaugurée en 75, même nommé dans cette paroisse comme curé, j'ai dit « D'accord, mais détaché auprès des jeunes. »
Sans oublier les autres, vous vous occupez aussi des autres, j'espère.
Je n'exclus personne, mais je tiens à être prêt auprès des jeunes.
Ah oui.
Et à partir des jeunes, à pouvoir peut-être remplir une certaine animation de la liturgie et d'autres choses. Et pour moi, les jeunes et les enfants, c'était la voie vers les familles. Je ne voulais pas détacher les jeunes des églises, ni les jeunes de la vie liturgique, mais pour moi, les jeunes, c'était l'avenir et c'était la porte ouverte vers les familles.
Pour faire de bons parents, quoi.
C'était un peu mon souci, quoi. Et en même temps, j'avais le souci d'ancrer les gens dans leur appartenance d'abord au Christ. On est chrétien. On n'est pas catholique, orthodoxe, syriaque, arménien, je ne sais pas quoi d'abord. Ensuite chrétien. On est chrétien à la base.
C'est fondamental.
Et pour de bon. Pour de bon, vous voyez. Et on est arabe. J'avais le souci de cette incarnation dans le milieu arabe. Je suis arabe, je ne suis pas français, je ne suis pas canadien, je suis arabe, donc j'ai à cœur de porter les problèmes de mon pays.
Absolument.
Vous voyez ? Et c'est pourquoi, lors de mon ordination, j'avais choisi comme image d'ordination. Vous savez que les prêtres d'habitude choisissent une image. Et ils y mettent un mot.
Un mot, oui.
Pour moi, j'avais choisi 3 mots. Une image représentant le Christ penché de la croix et cherchant à remettre sur pied un homme délabré.
Ah, c'est affaissé. Très oui. Beau.
Et en face, j'avais fait imprimer cette phrase. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est pécheur, et il a habité parmi nous. Au verso de l'image, j'avais écrit ces 2 phrases. L'une qui rappelle l'expérience de Saint Paul à Corinthe. N'aie pas peur, je suis avec toi. Parle, La tachaval takallam, la taskot. Ah, n'aie pas peur, mais parle plutôt. Ne crains pas, je suis avec toi.
Alors donc la divinité du Christ d'une part, et d'autre part le soutien que le Christ apporte à celui
Exactement.
Qui y croit et qui y adhère.
Ah, c'est très et bon. La nécessité de dire la vérité.
C'est ça.
Et troisième mot, pour moi, le Christ a dit, nul ne peut adorer deux maîtres, l'argent et Dieu. Vous voyez. Ça résumait un peu en gros, ces trois mots, mon souci d'incarnation, mon souci de vérité et mon souci de liberté par rapport à l'argent.
Et c'est ce qui fait que vous n'hésitez pas oui. à endosser la cause d'une femme de Soufanie qui est Myrna, très connue de plus en plus dans le monde et qui reçoit des grâces et des dons en but de favoriser, ai-je entendu dire, l'unité entre justement l'Orient et l'Occident, entre les deux grandes églises qui malheureusement se sont séparées au XIe siècle.
Mais je vais vous étonner quand même. Je n'ai pas accepté le phénomène au départ.
Pourquoi ?
Parce que de par ma formation à la française, j'étais rationaliste sur les Vosges.
Ah, oui.
Vous voyez ? Deuxièmement, à Damas, s'était produit, depuis ma petite enfance, une succession de phénomènes qui a fait remuer toute la ville et qui se sont avérés fausses.
Et dans le cas de Myrna, qu'est-ce qui s'est avéré ?
Dans le cas de Myrna, j'ai été simplement pour faire plaisir à un groupe d'hommes, de femmes et de jeunes de la chorale. Une chorale que j'ai fondée à Damas.
Vos jeunes ?
Certains étaient mariés.
Ah bon ?
Mais un groupe était venu et il m'avait demandé la première fois, c'était le lendemain du déclenchement du phénomène, le dimanche 28 novembre 82, d'aller pour leur dire ce que j'en pensais. Je les ai envoyés promener. Ils sont revenus à la charge une demi-heure après.
Une demi-heure après ?
Oui. Pourtant, ils connaissent mon tempérament. Quand je dis non, c'est non.
Oh, est-ce que c'est parce que vous avez mauvais caractère ?
Peut-être que j'ai mauvais caractère.
Ou bien ça devient une qualité parce que vous êtes ferme dans vos décisions.
Mais peut-être aussi que je tiens à ne pas louvoyer.
C'est ça.
Je prends position. Bon, c'est fini. Inutile d'y revenir. Ils sont revenus une deuxième fois. Poliment, je les ai envoyés promener.
Encore ?
Le même jour, ils reviennent un petit quart d'heure après. Et alors, en les voyant et connaissant mon tempérament, je me suis dit, quand même, fais-leur plaisir. Et j'ai été, mais j'ai été à contre-cœur, franchement.
La bonté vous a...
Et quand j'ai vu d'abord l'atmosphère de prière.
Voilà.
Or, une foule arabe n'est jamais une foule calme. C'est toujours la bagarre, les bruits. Ici, c'était vraiment un calme étonnant. Deuxième chose, juste à l'entrée de la maison, en haut d'un petit escalier de 9 marches, on avait accroché une pancarte écrite en mauvais arabe, signifiant ceci, nous n'acceptons aucun don.
Et là,
alors je me suis dit, ça y est, il y a de la propreté. Et moi qui suis très allergique à tout ce qui est argent, je me suis dit, ça y est, il y a là un bon signe. Et je suis entré, troisième chose, en entrant là où se trouvait la petite image. Inutile de vous donner les détails, j'ai vu effectivement l'huile couler de la petite image et qui remplissait une petite assiette.
Là-dessus, ce n'est pas une illusion.
Comment ?
Ce n'est pas une illusion.
Non, j'ai bien vu. J'ai demandé un petit coton. On m'a donné le coton et ils l'ont entouré de nylon.
Non, comment on appelle de l'ouate ici au Québec.
De l'ouate,
ça, de l'ouate, oui.
Et je l'ai tenu comme ça.
Oui.
Tous ceux qui étaient avec moi ont pris aussi le même coton entouré d'ouate. Et étant donné l'atmosphère de prière, j'ai dit, c'était des gens de la chorale, nous allons chanter Nahnu Abidaki. C'est un chant très populaire à la Vierge. Nous sommes tes serviteurs, ô Vierge Marie. Et on s'est mis à chanter. En plein champ, j'avais la main comme ça. La main droite tenant le coton placé dans la main gauche. Et j'ai regardé, j'ai vu que ma main droite était couverte d'huile.
comme Myrna.
Je ne savais même pas ce qui se passait là-bas.
C'est extraordinaire. Immédiatement. C'est de l'huile qui est apparue dans votre main.
Qui couvrait toute ma main droite.
Comme si Dieu créait cette matière qui est l'huile, j'en ai... pièces, oui, dans votre main.
N'empêche que j'en ai conclu que peut-être l'ouate était trouée et que l'huile a dû couvrir ma... Mais je me suis dit, mais quand même, tout en chantant. Hein,
c'est le rationalisme.
Quand même, le petit coton est tellement petit et puis ça n'a pas eu le temps de couvrir toute ma main. Et pourquoi la main droite et pas la main gauche aussi?
C'est la même. Ça me travaillait.
Puis je me tourne vers les gens qui m'accompagnaient. Samir, montre-moi ton coton. Main sèche. Georges, viva, main sèche. On a fini le chant. J'ai demandé alors à faire la connaissance de Myrna. Et là, j'ai constaté, en voyant Myrna et toute la famille, troisième signe, qui était pour moi très net, les gens étaient suffoqués d'étonnement.
C'est absolument fantastique.
Ne sachant pas ce qui leur arrivait et se demandant qu'est-ce que c'était.
Pourquoi de l'huile? Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi de l'huile? Pourquoi de l'huile de l'image? Pourquoi nous? Ils me disaient tout simplement, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui arrive?
C'est Dieu qui crée cette huile.
Au départ, on se posait bien des questions sur l'origine de l'huile. Vous voyez? Mais avec le temps, on a fini par conclure que vraiment c'était une intervention du Seigneur.
C'est ça. Mais pourquoi de l'huile? Pourquoi pas autre chose? Est-ce que c'est parce que l'huile au Moyen-Orient est au cœur de votre vie?
Si.
Comme symbole et comme nourriture et tout.
Exactement.
Les oliviers.
Vous voyez, en Syrie, si vous allez en Syrie, vous avez des régions entières qui sont couvertes d'oliviers.
Ah bon?
Oui. C'est un pays couvert d'oliviers.
Comme vous êtes chanceux.
Et les oliviers, c'est l'huile, voyez. L'huile, c'est le symbole de la lumière.
De la lumière.
Lumière. Non,
il y a de la pureté.
Comment?
Pas de la pureté de ce
avant
qui
la pureté. Avant la pureté,
c'est la lumière.
Ce qui vient immédiatement à la pensée, c'est la lumière.
Curieux.
On n'avait pas d'électricité.
Ah oui.
On se servait de lanternes, voyez. Ah oui.
Ah oui, les petites lampes, et dans lesquelles vous mettiez de l'huile,
exactement,
une mèche.
Avec
pour vous éclairer.
Tout à fait.
Ah oui.
Avant l'électricité, et l'électricité ne date pas de très longtemps chez nous.
Puis autant Jésus, c'est ce dont on servait pour éclairer, probablement dans la maison de Nazareth.
Même jusqu'au début du XXe siècle, on se servait de lanternes à huile.
Ah oui.
Ensuite, l'huile est toujours sur la table de nourriture.
Mm-hmm.
C'est une matière qui sert à tous les plats. Et c'est une matière très nourricière. C'est une matière aussi qui sert comme traitement pour certaines maladies.
Oui,
jusqu'à maintenant.
Ah bon, il faudrait que j'apprenne
et
ça.
On l'utilise aussi comme matière dont on enduit le corps des athlètes.
Ah ben oui.
Vous voyez?
C'est vrai.
Donc, c'est un symbole multiforme qui nous rappelle que finalement l'huile, c'est la lumière, c'est la nourriture, c'est la guérison, c'est le combat. C'est la lutte.
Et dans la Bible, c'est celle dont on sert pour couronner des rois.
Exactement.
Et c'est de l'huile dont on se sert pour vous ordonner, vous, les prêtres.
Exactement.
Et puis, la confirmation.
Tout à fait.
Puis,
à fait. Vous voyez.
C'est formidable.
Donc, vous voyez
les onctions finales avant de mourir
oui,
aussi.
Oui, oui. Oui. Vous voyez cette richesse du symbole de l'huile.
Très beau.
Et d'autant plus que c'est une matière qu'on ne peut nullement trouver dans un petit bout de papier qui ne contient pas de matière huileuse.
Pourquoi dites-vous un petit bout de papier? L'icône qui suit, c'est un petit bout de papier?
Un tout petit bout de papier de 8 cm sur 6 cm.
C'est une petite icône qui vaut 25 cents? Même pas un euro?
Non. Je vais vous dire combien ça valait quand Nicole l'a acheté à Sofia en Bulgarie.
Ah, ça
à l'église Alexandre Nevsky.
Ah,
oui. Il était en voyage avec des amis en 81. Et là, arrivé à Sofia, il était fauché. Il n'avait plus grand-chose. Il tenait quand même à acheter quelques cadeaux à sa famille. Il avait trouvé 10 exemplaires de cette petite image de la Vierge portant Jésus. À l'origine, c'est Notre-Dame de Kazan. placé dans un petit cadre de plastique.
De plastique.
De plastique, très modeste.
Mon Dieu. Ah, c'est vrai, j'ai remarqué qu'il y en a même un petit bout de plastique.
Un petit bout de plastique.
Tellement c'est...
Et à l'époque, Nicole l'avait acheté pour 3 livres syriennes.
Ce qui veut dire?
Ce qui équivalait à l'époque, le dollar valait 4 livres syriennes. 3 livres syriens, c'est donc 75 centimes.
75.
Pas plus.
Oui.
Donc imaginez cette petite image, ce que ça valait.
Sans poirier.
Il en a distribué à toute la famille 7, il en a gardé 3 chez lui. Et l'une de ces 3 a excédé de l'huile le matin du 26 novembre 82.
C'est cet icône qu'on peut voir à la télévision, cet effet réalisé, je crois, par Gabriel Bernerian.
Oui, oui.
Et on voit l'icône sous un globe de verre.
Tout à fait.
Alors, l'huile est créée par Dieu devant nous. J'insiste sur le fait de dire créée par Dieu, mais c'est pas possible que ça vienne d'ailleurs. Ça ne peut pas venir du papier ni du plastique.
On a beau chercher, on a beau réfléchir, on a beau accuser. Comme quoi il y a des tuyauteries cachées, etc., etc. Finalement, il faut se rendre à l'évidence que c'est un petit bout de papier qui exsude de l'huile à des moments absolument inattendus, à des fêtes, à certaines fêtes, au moment où on s'attend le moins, l'huile coule, et quelquefois d'une façon étonnante.
Vous voulez dire en abondance ?
Oui. En abondance... mon ancien confrère, le père Malouli, qui est mort en 2000, le 5 mars 2000, il avait calculé, comment dire, à la seringue, les quantités d'huile qu'il avait recueillies. C'était des kilos.
Des kilos ?
Des kilos.
Et...
Oui, des kilos.
Je sans vous crois parce que c'est vous, mais autrement, je ne le croirais pas.
Sans aucune exagération.
C'est incroyable.
66 litres, c'est lui qui vous a dit ça? Voilà.
66 litres?
Chaque fois que l'icône exsudait de l'huile, le père venait avec une seringue, il retirait toute l'huile, il la pesait, il en comptait les gouttes, puis il les replaçait dans la petite coupule qui se trouvait sous l'icône.
Oui, comme une soucoupe.
Une soucoupe qui se trouvait sous l'icône. Mais au départ, ce n'était pas dans un bloc en verre, ni en plastique. Au départ, c'était adossé à une grande icône de la Vierge et placé dans une assiette. Et au fur et à mesure qu'il y avait de l'huile, les gens en demandaient, on leur donnait du coton imbibé de cette huile et entouré d'ouate.
Est-ce qu'elle est parfumée ?
Au départ, c'était une odeur extraordinaire. Au point qu'un jour, à Paris, un prêtre et une religieuse, quand ils l'ont goûté, quand ils l'ont senti, le prêtre a dit « Chanel peut toujours courir ».
À ce point-là, c'était tellement merveilleux comme parfum.
Cette expression m'a drôlement frappé.
Un parfum divin,
Chanel
quoi.
Peut toujours courir. Voyez.
Chanel
une odeur étonnante.
Ah ben
étonnante,
c'est formidable. Voyez.
À propos d'huile, on a fait examiner l'huile. On l'a fait examiner... à 2 reprises dans le centre de recherche scientifique créé par la France à Damas.
Ah bon ?
On l'a fait examiner à Paris, à Rome et dans 2 centres de laboratoires en Allemagne, Allemagne occidentale à l'époque, sans en dire l'origine.
Ah bon ?
Et de même l'huile qui est sortie des yeux de Myrna.
Ah oui, parce que ça figure aussi.
Exactement.
Comme s'il y avait de l'huile qui jaillissait de
ça. Ça coule des yeux de Myrna. Et cette huile qui a coulé le soir du 26 novembre 86, c'est le père Jean-Claude Darrigo de la télévision française qui se trouvait à Damas, que j'avais invité, qui avait recueilli dans un petit flacon, un petit flacon qui avait été... aseptisé, on dit.
Ah oui, oui. Il était complètement pur de toute trace d'autre chose.
Et il avait envoyé...
Stérilisé.
Il avait envoyé ce petit flacon en Allemagne sans dire l'origine de l'huile. La réponse de tous les laboratoires, c'est une huile d'olive pure à 100%.
Est-ce qu'il y a de l'huile d'olive pure à 100%?
Non.
Il n'y en a pas d'autre, toujours... c'est la seule.
Non.
Et celle que toujours... Dieu fait est à 100%, celle que les hommes font,
oui.
Hop, il y a un petit quelque chose.
Il y a toujours de l'acidité, oui.
Mais c'est fantastique ce que vous me racontez là.
Oui.
Mais ça a dû transformer votre vie.
Mais je voulais vous dire aussi une chose, en vous disant que l'huile arrive quelquefois de façon fantastique. La nuit du 10 décembre 82, on était en prière devant l'icône. Puis vers minuit moins le quart, on se retire, on va au salon. À l'instant même, Myrna dit, moi je vais prier pour le frère de la sœur. La sœur, c'était une religieuse qui était venue le matin même d'Alep et dont le frère avait été paralysé. Elle avait demandé à Myrna de laisser la photo de son frère paralysé devant l'icône. À peine on a fini de prier,
et Myrna... Son frère avait quel âge?
Il était assez vieux.
Assez vieux.
Oui. Et Myrna a dit aussitôt, moi je vais prier pour le frère de la sœur. Dans mon cœur, je me suis dit, mais quand même, cette jeune ne se gêne pas. Non. Elle n'a pas marre de prier. Pourtant, je suis prêtre. Elle ne se lasse pas de prier.
Elle ne se lasse pas de prier.
Et elle est partie. À peine elle nous a quittés, on a entendu des cris réellement hystériques. On court, on était une dizaine de personnes. On trouve Myrna derrière la porte de sa chambre, regardant les yeux exorbités du côté de l'image. On regarde et on voit de l'image sortir des bulles. Des bulles sortir de l'image, petites, grossir et éclater. C'était des bulles d'huile.
Des bulles d'huile.
Ça a duré de minuit moins le quart jusqu'à 4h moins le quart du matin.
Et là?
Le soir du 10 décembre 82. On était là, à genoux.
Donc le phénomène dure 4 heures de temps.
4 heures. Malheureusement, à l'époque, on ne pensait même pas à documenter le phénomène. On se laissait prendre par le phénomène, on s'agenouillait, on priait. Dommage qu'on n'ait pas pensé à prendre en photo, en photographie, en vidéo, cette espèce de spectacle pour le jeter à la tête de quiconque pourrait nous dire « Allons vous blaguer ». C'est des fêtes qu'on a vues. Et on n'était pas le seul à le voir.
Soyez sans crainte, moi je vous crois. Parce que c'est tout. Vous êtes un rationaliste converti.
Oui. Extraordinaire, vraiment.
Mais c'est phénoménal.
Oui.
Que de joie à voir ces choses. Être témoin de choses comme ça. Ça a dû vous transformer. Parce que vous me disiez que vous étiez un peu rationaliste tout en étant croyant, évidemment.
Oui, de ce côté-là, ça m'a retourné complètement. Et c'est là que, de nouveau, j'ai senti que le Seigneur est présent d'une façon qui dépasse complètement l'entendement humain. On a beau raisonner, on a beau chercher à comprendre, finalement, il faut se taire et il faut dire « Celui qui est descendu du ciel, en devenant homme comme nous, misérable comme nous, est capable de faire tout ce qu'il veut maintenant ». Et au-delà de toute conception humaine.
Il le faisait sur Terre, quand il était là, mais là, il fait des choses presque surréalistes, extraordinaires, phénoménales. On dirait que c'est parce qu'il sait que nous sommes devenus de plus en plus rationalistes, justement, et que nous avons besoin de constater des choses aussi fantastiques, parce que nous sommes aveugles, et nous ne nous rendons même pas compte que nous-mêmes, nous sommes faits de la même matière que le sol, et cette matière forme un cerveau avec des milliards de neurones, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, une bouche qui parle, un cœur qui bat depuis 3 semaines après notre conception, etc. Nous sommes des miracles, mais nous sommes inconscients. Nous regardons dans un miroir et nous ne voyons
que les
problèmes. On dit, oh, je commence à vieillir et puis il faudrait bien que je me fasse remonter le visage, nous sommes une femme. Et on ne se rend même pas compte que nous sommes des miracles. Et là, c'est formidable.
C'est vrai.
Comme si ces petits miracles, finalement, qui sont rien du tout, de l'huile qui fait des bulles, etc., mais devant un enfant qui pleure, qui dit papa, et qui devient prêtre, etc., ou qui se marie, qui fait d'autres enfants, c'est hallucinant.
Et
enfin, c'est formidable. Avez-vous reçu vous-même un message personnel, si on pourrait dire, à plus de cette main, votre main droite, votre main sacerdotale, particulièrement cette main consacrée, n'est-ce pas, une main de prêtre, c'est pas drôle, c'est une main qui verse l'eau pour le baptême, c'est une main qui absout, c'est qui une main qui tient le corps du Christ et puis qui le donne, c'est une main qui bénit les mariages que nous donnons, c'est une main enfin qui administre les derniers sacrements, c'est une main extraordinaire qu'une main de prêtre.
Et une main toujours tendue vers les autres.
Elle doit l'être, je l'espère, toujours. Mais avez-vous eu d'autres signes à part cette main
Tout au début, un jour j'étais en prière avec Myrna, sa maman, Nicolas, la maman de Nicolas, on était un petit groupe. Subitement, Myrna a le visage crispé, elle porte les deux mains à ses deux oreilles, on a l'impression qu'elle entend un bruit assourdissant. Puis, sans regarder sa maman, elle lui dit « Comment s'appelle le père ?» Myrna ne me connaissait pas avant.
Ah bon ?
Ni moi non plus, je ne connaissais pas la famille. Sa maman lui a dit « Le père Elias ». Alors Myrna a parlé, mais ce n'était pas elle qui parlait. Ce n'était pas elle qui parlait. Et elle m'a sorti des vérités concernant ma vie, en disant certaines choses que j'ai tenues complètement secrètes pendant 8 ans et demi, complètement. Et ça s'est passé 2 fois. J'ai demandé par la suite, aussitôt, à Myrna, à Nicolas, à toute la famille, qu'ils n'en disent rien à personne, absolument rien.
Elle a révélé vos vertus.
Ils ont gardé un silence, ils ont gardé un silence radical, réellement.
Ah bon ?
Oui. Moi-même, j'étais abasourdi parce que j'ai entendu.
Est-ce que sa voix était changée ?
Non. Non, non, non. C'était la voix de Myrna, mais c'était une autre personne qui parlait en elle.
Une autre personne.
Au point que, un certain temps, et ça m'a pris longtemps, j'ai cru que c'était le démon qui parlait. Pour moi, c'était nouveau, voyez. Tout cet ensemble de phénomènes était nouveau. Et ayant lu un peu dans la vie des saints, je me suis dit que peut-être le démon a voulu se faufiler, ou le Seigneur lui a permis, dans un but que j'ignorais, peut-être pour me donner un certain sentiment d'orgueil qui me perdrait davantage, disons. Et je suis resté longtemps à réfléchir, à prier, à demander au Seigneur de m'éclairer. Et quand j'ai écrit le livre sur Soufanié, 8 ans après, j'ai tué complètement le phénomène. J'en ai pas parlé, mais j'ai remis le manuscrit à 4 personnes, au patriarche syriaque orthodoxe, pour qui j'ai un respect immense, et à 3 intellectuels syriens du pays, Antoine Magdissi, Adib Mosleh et Georges, tout à l'heure je penserai à son nom, 3 hommes remarquables. Antoine Magdissi, quand il a lu le manuscrit, il m'a dit, Père, est-ce que vous avez dit tout? Je lui ai dit, il y a une chose que je n'ai pas dite, et peut-être vous pouvez me conseiller. Alors je lui ai raconté, il m'a dit, non, vous devez le dire, parce que votre présence à Soufanié a été pour beaucoup un motif de crédibilité, tout en étant pour d'autres un motif de refus. Étant donné mon engagement, un motif de refus, mais pour beaucoup de gens, ça a été un motif de crédibilité. Et le lendemain même, il me téléphone en me disant, « Avez-vous commencé à rédiger ce que vous m'avez dit ?» Je lui ai dit, « J'hésite. » Il m'a dit, « Vous n'avez pas le droit d'hésiter. Il faut dire toute la vérité. » Alors, j'ai dit, voyez. Et ça a paru en fin de livre, sous le titre, « Un fait que j'ai tenu caché pendant 8 ans et demi. » Aussi bien dans le livre arabe que dans la traduction française. Et là, je ne me souvenais plus que de quelques phrases que Myrna avait dites. Mon enfant, Elias, c'est moi qui t'ai relevé du lit de maladie et je t'ai fait venir ici pour me servir. Poursuis ton travail d'évangélisation. Tu es apôtre, tu es bon. je connais ton combat depuis de longues années. Je connais ton combat avec toi-même, avec tout ton entourage, avec ton église particulière, avec les autres églises. Et reprends le mot, tu es apôtre, tu es bon, l'unité que tu recherches viendra.
Viendra.
Voyez,
c'est
ces phrases qui m'étaient restées en tête. Tout le reste, je l'avais volontairement oublié. Sachant que personne ne le saura, et sachant que c'était un secret personnel, je n'ai même pas pris la peine de le noter, et tout en croyant un certain temps que c'était une tentation du démon pour me pousser à une espèce d'orgueil, de révolte contre l'Église, etc. Il m'était difficile de pouvoir comprendre ce que j'avais entendu dire, voyez. Et avec le temps, ça m'a fait drôlement réfléchir, ça m'a ancré davantage dans mon engagement en Église.
Voilà ce que ça a fait, si vous voulez.
Davantage dans mon engagement en Église, dans mon engagement contre la richesse, l'argent dans l'Église, dans mon engagement de vérité avec mes supérieurs, avec mes confrères, avec les gens, les fidèles, soit dans ce que je dis, soit dans ce que je prêche, soit dans ce que j'écris. Parce qu'il m'est arrivé, il m'arrive toujours d'écrire. Voyez.
Vous m'adlez sur Saint-Jean Chrysostome.
Comment?
Vous m'adlez sur Saint-Jean Chrysostome.
Je ne sais pas. Mais...
il ne gênait pas pour dire la vérité. Mais... il s'opposait aux richesses, il écrivait, il prêchait, mais... il disait la vérité. Et il ne se prenait pas pour un autre parce qu'il sait, il sait la parole de Saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu, hein? Tout ce qu'on reçoit, ça vient de Dieu.
Mais...
comment pouvoir être orgueilleux de ce que Dieu nous a donné? C'est hallucinant, il nous le donne pour nous en servir, pour sa gloire, pour, par amour pour lui, par amour pour les êtres.
Oui,
et
mais...
cette phrase, qu'as-tu que tu n'aies reçu, j'ai appris ça à 13 ans d'un professeur qui nous criait ça à tue-tête dans la classe, je ne sais combien de fois, au point qu'on l'appelait le frère qu'as-tu. Et puis, qu'as-tu que tu n'aies reçu, ça m'est resté et je trouve donc ça que c'est vrai, c'est Paul quand il dit ça. Alors qu'as-tu que tu n'aies reçu, tout ce que vous avez reçu c'est formidable.
Oui.
Vous avez reçu bien des grâces extraordinaires.
Mais croyez-moi, plus on reçoit, plus on se rend compte qu'on en est indigne.
Voilà, absolument.
Qu'on en est...
nous sommes toujours indignes.
Absolument.
Nous sommes même indignes de notre baptême, mais indignes de tout, indignes d'exister. Et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? C'est tellement extraordinaire. Et alors, les apparitions sur Fanny, finalement, les messages sont peu nombreux. Ils sont...
mais dans...
pertinents, ils sont un peu mystérieux à un cerveau occidental rationaliste. Vous les traduisez, vous vous en occupez, mais qu'en retenez-vous?
J'aurais voulu retenir tout.
Ce sont des messages qui viennent de Jésus.
Oui, de la Vierge et de Jésus.
Des deux.
Tout a commencé par la Vierge. Et ça, c'est très important dans le contexte du monde arabe. Si on avait dit que c'est Jésus qui parle, je crois que beaucoup auraient boycotté le phénomène, à commencer par les musulmans.
Pourquoi?
Parce que Jésus, c'est Jésus, quoi, voyez. Pour les chrétiens, c'est Dieu. Pour les musulmans, c'est un prophète immense. Et ils n'ont pas l'habitude d'entendre dire qu'il apparaît et qu'il parle aux gens. Tandis que la Sainte Vierge, elle, qu'il y a une si haute perfection dans le Coran même, pour laquelle les musulmans ont une estime que rien n'égale.
Ils vont même la prier au Caire, paraît-il, ils vont
partout,
la prier à Notre-Dame du Caire, ils l'invoquent, ils lui demandent des faveurs.
À 30 km de Damas, il y a le couvent Notre-Dame de Sednaya, un couvent extraordinaire, où tout le monde vient prier.
Les musulmans aussi.
Ou les musulmans autant que les chrétiens.
Ils demandent des faveurs
et
à la Vierge.
Et des guérisons qui s'opèrent là-bas, aussi bien pour des musulmans que pour des chrétiens.
Les musulmans sont guéris.
Absolument,
aussi.
Oui, oui.
Elle est gentille.
Et qui offrent. C'est la mère de tous.
C'est la mère de tout le monde, c'est ça. Ah,
donc,
ben c'est merveilleux ce que vous
Marie
dites.
Parlant, tout le monde vient instinctivement. Il vient chez sa mère. Les gens viennent chez leur mère. Au point que le mufti de Syrie, le mufti, c'est la grande référence islamique en Syrie. au début du phénomène.
Un évêque, un archevêque. Quoi.
Oh, plus, c'est le pape, disons, pour la Syrie.
Avant,
au niveau des musulmans, oui.
Ah,
oui.
Le primat.
Un ami lui a dit, m'a raconté, qu'on lui a dit en pleine réunion, ce qui se passe à Soufanié, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il leur a dit, écoutez, avec la Sainte Vierge, on l'appelle en arabe Sitna Maria, Notre-Dame Marie. Mmh. Rien ne nous étonne. C'est la femme la plus pure par excellence, dont le nom a été mentionné dans le Coran seul, voyez, qui est la mère de Jésus, qui fait des miracles. Allez prier et n'hésitez pas à y aller.
J'avais déjà rencontré comme ça un Égyptien qui me disait qu'il avait été miraculeux dans son enfance, dans les bras de sa mère, qui priait Notre-Dame du Caire.
Oui.
Étrange.
Oui. Non, c'est pas étrange. Je crois, moi, que Marie servira finalement de pont de relais entre les chrétiens d'un côté et les chrétiens et les non-chrétiens de l'autre, surtout les musulmans dans le monde arabe.
Est-ce que c'est pas l'essentiel de son message?
Si.
À Damas
est un peu dans le monde. Mais quand même, le message va beaucoup au-delà, bien au-delà. Il suffit de lire le premier message qu'elle a donné. C'est un message où les phrases sont coupées à la hache.
Ah bon?
Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Or, dans le monde actuel, où est Dieu?
Il est toujours avec nous.
Même dans le monde arabe, où on le mentionne à chaque minute, mais dans la vie courante, on a tendance de plus en plus à mettre Dieu de côté. Pas tout le monde, mais dans l'ensemble.
Un peu comme les Américains qui disent toujours « God bless you, God bless you ».
Oui. Le style de la vie moderne tend lentement à élaguer Dieu. Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Deuxième chose, vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Le monde actuel se targue de tout connaître, de vouloir tout connaître. Et dans le monde musulman, on a plus que jamais besoin de connaître pour sortir de cette espèce d'enquistement où l'on se trouve depuis des centaines d'années. On n'arrive pas à décoller, voyez. Et beaucoup prétendent que la science seule nous aidera à décoller. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance imparfaite, mais viendra le jour où vous connaîtrez tout comme Dieu me connaît. C'est Saint Paul.
Absolument.
Et c'est un rappel de la vie éternelle qu'on a tendance à oublier de plus en plus. Voyez. Aussitôt après, la Vierge dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal et ne faites de tort à personne. Dans le contexte de violence et d'injustice radicale où se trouve l'Orient, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, un mot de ce calibre et de cette portée en dit long sur la nécessité de l'amour universel. Faites du bien à ceux qui vous font du mal et ne faites de tort à personne.
Est-ce que les musulmans qui vont à Soufanié, voir cet autre endroit dont vous me parlez tout à l'heure, près de Soufanié, près de Damas, est-ce qu'ils sont saisis par ce message de paix, d'absence de vengeance, de pardon aux ennemis, etc.
Oui.
Alors, est-ce que ça se répand de plus en plus chez les musulmans de la région là-bas en Syrie?
De plus en plus, même des Iraniens viennent prier. On a vu des Maghrébins venir prier à Soufanié, des Tunisiens venir prier à Soufanié. Finalement, moi je suis sûr, en dépit de toute la surface de violence et de tout ce qui jaillit du fin fond de chacun, on aspire tous à la paix, on aspire tous à l'amour. Et on voudrait en finir, que ce soit en Orient, que ce soit partout.
On voit de plus en plus dans le journal Le Monde, dans les Economist, etc., des musulmans de grande portée dans le monde qui disent qu'il faut finalement mettre un terme à la vengeance, au terrorisme, à la guerre, etc.
Oui.
Et ils abordent cette question ouvertement depuis quelque temps.
D'accord, mais avant de penser à la surface, au résultat, il faut penser aux causes.
Oui, les causes, oui.
La Vierge appelle à l'amour. Mais il faut aider les gens à vivre cet amour.
Voilà, c'est ça.
Si vous venez m'écraser, et vous me dites, vivez dans l'amour, en m'écrasant et en me privant de tout, tôt ou tard, vous me forcerez à me révolter et à me venger de vous.
J'ai vu un témoignage extraordinaire à la télévision, où un jeune musulman calme, posé, qui parlait un peu comme Bin Laden, qui parle très calmement, n'est-ce pas? Je le regarde, Bin Laden, des fois, il fait penser à certains bons prêtres. Très étrange. Cette façon calme, sereine. Oui. Alors, il parlait de la même façon, il avait ses lunettes. C'était un homme assez instruit, un jeune étudiant, disons 30 ans, et qui disait, qu'on me tue, cela ne me dérange pas. C'est vrai, j'ai été un terroriste, mais que voulez-vous? Nous patientons depuis des années et nous vivons dans des conditions terribles dans certains pays, comme vous parlez de la Palestine.
Oui.
Nous ne pouvons plus, c'est trop, vient un moment où la violence surgit en nous et elle nous semble devenir normale car c'est la seule issue. Cessez de nous persécuter, cessez de nous traiter comme si nous n'étions rien.
Exactement.
Et c'était bouleversant parce qu'il était très calme et il était serein comme un moine. Je lui aurais mis une burbe de bénédictin facilement. C'était très émouvant.
Or, c'est cela que l'Occident se refuse à voir.
C'est là la clé peut-être.
La clé est là.
C'est de
rechercher les causes de cette violence.
Répandre dans tout ça l'amour finalement.
Avant d'accuser l'autre d'être terroriste, cherchez à voir pourquoi il est devenu terroriste.
Pourquoi, voilà.
Ou pourquoi il est à vos yeux terroriste. Vous risquez d'être vous-même plus terroriste que lui pour l'avoir acculé à ce geste de violence où il se détruit lui-même dans l'espoir de vous détruire vous aussi.
Eux, est-ce qu'ils, ceux qui viennent et qui semblent ouvrir leur cœur, est-ce qu'ils acceptent les stigmates de Myrna, ces traces de la crucifixion, eux qui disent, je crois dans le Coran, que le Christ n'est pas mort sur la croix ils ont des réactions vis-à-vis de ça, les stigmates, la croix.
Avant les stigmates, il y a le fait des miracles en christianisme. Ça doit leur poser question.
Est-ce que ça les rapproche de la crucifixion du Christ?
Ça les rapproche de la Vierge et de Jésus.
Avez-vous entendu dire qu'ils étaient allés voir le film de sur la crucifixion, sur la passion?
J'en ai vu des centaines à Damas. Et il faut vous dire qu'à Damas, le film a passé, avant d'avoir passé au Canada et en France.
Non.
Ah oui, si, 2 mois avant.
Deux mois avant.
Dites-vous qu'à Damas, il y a 5 millions d'habitants, dont pas plus de 400 000 chrétiens. Or, pendant des mois, les gens venaient voir le film.
Des mois. Et ils n'ont pas retiré au bout de 2 semaines.
Non, au contraire. Et les gens, dans la majorité, c'était des musulmans.
Alors, c'est-à-dire que ces musulmans n'ont pas d'objection à voir un Christ qui souffre une passion et qui est crucifié.
Ça leur pose question. Parce qu'en fin de compte, le Christ les fascine. Même dans le Coran, où on refuse la crucifixion pour Jésus, Jésus a une ampleur fascinante pour les musulmans.
Alors c'est la même chose dans d'autres pays arabes. Il paraît que au Qatar, on leur est montré. Qatar.
Même en Iran.
En Iran.
Même en Iran, le film a passé.
Mais il faut que tout le monde le sache, vous me dites là.
Oui. Il a passé avant qu'il ne passe en France. Même en Iran.
C'est trop, nos journaux ne nous parlent pas de ça.
Hélas, parce que les journaux en Europe et aux États-Unis et au Canada sont tenus en main par ceux que vous connaissez, dans l'ensemble.
J'espère que je ne les connais pas.
Ah.
Et alors, à Pâques 2001, on dit que Myrna fut apaisée... d'une façon très spéciale par la Vierge.
2001, oui.
Oui, c'est le père Malou.
Exactement.
Malouli qui est mort, n'est-ce pas? Elle a vu le père Malouli.
Exactement. Myrna, depuis la mort du père Malouli, a, je dirais, la nostalgie du père Malouli. Ça a été un véritable père pour elle.
C'était son guide spirituel. Est-ce que vous êtes son guide spirituel?
On était un tandem à Soufanié. Ah bon. lui en permanence à la maison,
oui,
et moi presque en permanence à l'extérieur.
Ça a dû être un grand chagrin aussi pour vous, oui, de le voir partir comme,
oui,
ça.
Ah oui.
Et alors, pour Myrna, elle n'a plus.
Elle se demandait où est-ce qu'il peut être, voyez.
Ah, aussi, il était au ciel.
Oui, avant la Semaine Sainte. On avait beau lui dire, mais quand même, Myrna, un homme du calibre du Père Mahlouli, il doit être certainement au ciel. Et puis le samedi saint, elle a vu le Père Mahlouli, mais nous, on n'a pas su. Juste au sortir de l'extase, à peine elle a commencé à ouvrir les yeux, elle faisait ce geste, comme ça là.
Ah.
Vous voyez, c'était la première fois qu'elle le faisait. Vous étiez là, Gabi.
J'ai filmé.
Là.
Oui,
j'ai filmé.
Devant tout le monde, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. J'ai dit au Père Boulos Fadel, qui se tenait à côté d'elle, Père Paul, demandez-lui pourquoi elle fait ce geste. Il lui a dit, Myrna, pourquoi tu fais comme ça? Il lui a dit, mais le Père Mahlouli est là. Il est là, là, là. Et une fois qu'elle a repris complètement conscience, elle nous a dit qu'elle a vu le Père Mahlouli et la Vierge. Le Père Mahlouli lui a tenu la main droite.
Il tenait la main de la Vierge?
La main, non.
Non, à la main de Myrna.
La main de Myrna, la main droite.
Ah bon, c'est pour
ça. Et la Vierge, la main gauche.
Ah!
Et ils l'ont conduit tous les deux vers Jésus. À quelques
pas. Ils
l'ont
conduit Myrna vers Jésus.
Vers Jésus. Jésus, c'était une silhouette lumineuse, intense. À quelques pas de Jésus, ils l'ont lâché. Le Père Mahlouli s'est tenu à gauche de Jésus et la Vierge à droite.
Et quand Jésus dit qu'il est la lumière,
oui,
il apparaissait sous cette forme.
Oui, une forme lumineuse intense.
Je suis la
et
lumière.
Et le Christ lui a dit un message. Et nous a précisé que quand le Père Mahlouli lui tenait la main, elle n'a pas senti la main du Père Mahlouli, mais elle savait qu'il lui tenait la main. Tandis que la Vierge lui tenant la main, elle sentait une main de chair.
Ah, mon Dieu, ah, c'est,
voyez,
curieux.
Oui.
C'est phénoménal.
Et c'est alors que Myrna a eu le cœur tout à fait tranquille. Ça y est, le Père Mahlouli est déjà arrivé.
Vous êtes un privilégié de vivre dans ce monde du merveilleux qui vous rattache au monde invisible de façon...
privilégié qui ne le mérite
exceptionnel.
Pas.
Plus on, non, avance, vous ne le méritez pas, mais c'est une grande grâce.
Plus on,
c'est
avance,
un don,
plus
c'est
on
un cadeau.
Compte. Oui, oui.
Un cadeau extraordinaire.
Et on voudrait être un peu, tant soit peu, à la hauteur de ce cadeau.
Alors finalement, tout ça, oui, en l'an 2004, oui, les gens sont avides justement de merveilleux, de toutes sortes de choses. Ils ont fait des films étranges, etc. On lit des livres ésotériques. L'ésotérisme est devenu presque la religion mondiale. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller chercher dans l'ésotérisme. Nous avons le merveilleux dans notre propre religion, qui est la vraie religion à mon avis, et puis nous avons, j'ai devant moi un prêtre qui a le pouvoir justement de consacrer du pain au corps du Christ vivant, ressuscité. C'est déjà extraordinaire, ça, je rappelle ça souvent aux gens, mais là, ce que vous me racontez autour de Myrna, autour de Soufanié, est absolument phénoménal, fantastique, il faudrait que tout le monde sache ça.
Oui.
Mais, surtout de la part de quelqu'un qui était rationaliste,
mais,
tout en étant prêtre.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé pendant cette Semaine Sainte 2004.
Qu'est-ce qui s'est passé de particulier?
On avait reçu, de la part d'un groupe de médecins scandinaves, des lettres, et de la part de l'évêque, comme quoi je vous recommande ce groupe de spécialistes. Ils sont venus pour observer le phénomène de Soufanié. Et le chef de la délégation, un médecin suédois, s'était mis en tête que tout cela n'est que l'effet d'un état psychologique émotif de Myrna, que ce soit l'ouverture des blessures ou autre.
Oui, c'est ce qu'ils disent toujours.
Et ils sont venus avec un tas d'équipements. Mm-hmm. Ils étaient 11, dont un théologien danois. 11.
11 avec de l'équipement.
Oui. Et il y avait en même temps un médecin de Los Angeles.
Le théologien était sans doute luthérien.
Comment?
Le théologien était sans doute luthérien, j'imagine.
Non, c'était un catholique.
Un catholique de Suède.
Un catholique convaincu, danois.
Un danois.
Convaincu de Soufanié.
Ah bon?
Converti.
Parce qu'il avait lu à l'avance beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Il était heureux d'être là. Toute l'équipe était obnubilée par la conception strictement humaine de ce phénomène. Voulant expliquer humainement ce phénomène. On avait des médecins de Los Angeles, de Paris, d'Allemagne, du Liban et de Damas.
Mon Dieu!
Toute cette équipe était là.
C'est incroyable.
Avec plusieurs équipes de télévision aussi. Et ils ont constaté le jeudi saint, contrairement à leur attente, s'attendant à ce que les blessures s'ouvrent au front de Myrna, aux mains, aux côtés, aux pieds.
Ah oui, pour la couronne d'épines, oui, tout ça. Hein.
D'autant plus que Myrna était congestionnée au possible, tellement essoufflée. Effectivement, il n'y a eu qu'une seule blessure du côté, mesurant 3 cm, 4 mm, du côté. À part cette blessure, il n'y a rien eu. Et Jésus a dit ces trois phrases. Voici la source où se désaltère toute âme. La blessure de mon cœur est la source de l'amour.
Ça rappelle la plus grande dévotion qu'il y a dans l'Église, oui. La dévotion au Sacré-Cœur. Ce cœur qui a tant aimé les hommes,
exactement.
Qui en est si peu aimé.
Oui.
C'est tellement
et la troisième
beau.
Phrase, quant aux blessures, elles sont à cause d'un crime que je n'ai pas commis.
Et comment il dit
oui.
Il était
impeccable. C'était le jeudi saint. Le vendredi saint s'est passé dans une prière extraordinaire et tout le monde croyait que c'était fini. Le samedi saint, dans l'après-midi, 4 médecins libanais étaient venus voir Myrna avec une confrère à eux, qui était sceptique quant à Soufanié, et c'est leur confrère, femme, qui les a convaincus de venir parler avec Myrna. Ils sont montés avec Myrna sur la terrasse de la maison où la Vierge apparaissait à Myrna pour être loin de la foule, parce que la foule remplissait toute la maison et les alentours. Myrna est restée avec eux pendant une heure.
Mm-hmm.
À leur dire un peu, très simplement, l'ensemble du phénomène. Puis, au bout d'une heure, elle leur dit au revoir. Elle descend l'escalier et subitement, de sa tête, de toute sa figure, des yeux et des mains, une abondance d'huile coule.
Comme ça?
Comme ça, subitement.
Sans qu'elle ait pris une fiole pour s'asperger la figure?
Non, rien, 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 absolument rien.
Ça surgit.
Elle leur a serré la main, elle descendait l'escalier et subitement...
La figure et les mains... Et ce n'est pas la première fois, ça,
ah non,
ce phénomène
non.
arrive.
C'est la énième fois.
La énième fois. On ne calcule plus le nombre de fois que l'huile apparaît sur sa figure et ses mains.
Et dans les yeux.
Et dans les yeux aussi.
Ça la brûle, elle ne voit plus, elle perd l'équilibre. Ils ont été obligés de la tenir, de la faire descendre l'escalier, de la conduire dans sa chambre. Et alors là, tout le monde était là. Attendre. Au bout d'un moment, et les médecins scandinaves ont sorti leurs instruments, ils ont voulu tout examiner, et au bout d'au moins une heure, ils ont plié bagages, et ils attendaient, et c'est alors que Myrna a dit cette phrase, ces deux phrases. Mon dernier commandement pour vous, retournez chacun chez soi.
Et c'est Jésus qui parle.
Oui. Mais emportez l'Orient dans votre cœur.
Emportez l'Orient dans votre cœur.
D'ici, de nouveau a jailli une lumière dont vous êtes le rayon pour un monde séduit par la matière, le plaisir et la célébrité au point qu'il en a presque perdu les valeurs. Quant à vous, conservez votre authenticité orientale et ne permettez pas qu'on aliène votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet Orient.
C'est une interpellation très forte de la Vierge à l'égard des orthodoxes et des chrétiens de rite oriental, des catholiques de rite oriental.
Interpellation de Jésus.
De Jésus. Mais oui, c'est vrai, c'est Jésus.
C'est Jésus qui parlait à Myrna.
Et alors c'est la vocation même des chrétiens d'Orient,
mais
tant orthodoxes que catholiques.
Mais en même temps, c'est un constat très triste de l'état où en est l'Église en Occident.
En Occident, oui.
Moi-même, quand le père qui a rédigé le texte sous la dictée de Myrna m'a passé le texte, j'en ai pleuré. À l'instant, en le lisant, j'en ai pleuré. Il y avait un prêtre français, un ami, qui vient régulièrement à Soufanié. Il m'a étreint en me disant, « Père Élie, il ne faut pas pleurer. » Je lui dis, « Mais regardez, qu'est-ce qui reste à Jésus maintenant ? L'Occident est parti, l'Orient est menacé, qu'est-ce qui lui reste ?» En arabe, je lui ai dit, « Le Christ a le cœur consumé à cause de l'Occident. » « Albu mahrou al-gharb » ou « Albu ma'tou al-sharb » Et il a la frayeur au cœur à cause de l'Orient. Parce qu'à vouloir approfondir chaque terme dans ce message, on finit par se rendre compte que l'état de l'Église en Occident n'est pas des plus enviables et l'état de l'Église en Orient est profondément menacé.
Menacé, oui, par l'immigration en particulier.
Pas seulement l'immigration, tout, tout. L'immigration n'est qu'un résultat de l'ensemble de phénomènes qui détruisent l'Orient, tout l'Orient. Et cette destruction est menée systématiquement par l'Occident. Ça, il faut le dire. Et moi, je ne cesse de le dire et de le redire sur tous les toits. L'Occident est coupable de vouloir détruire l'Orient, mais il finit par se faire détruire lui-même.
Pourquoi veut-il détruire l'Orient? Pourtant, c'est là qu'il puisse y avoir le pétrole.
Il y a le pétrole d'abord. Il y a une volonté politique de justification éternelle de la création de l'État d'Israël. Il ne faut pas se leurrer. Pour cela, il faut relire toute l'histoire de l'Occident quant à la politique vis-à-vis de l'Orient pour voir comment le tout était mené pour installer l'État d'Israël, lui donner une consistance durable, et une consistance durable ne peut se faire qu'à travers un fractionnement grandissant de tous les États du Proche-Orient. Ce fractionnement ne peut se faire qu'à partir d'une division confessionnelle chrétienne-musulmane, musulmane-musulmane, chiite, sunnite, etc., et à partir de clans. Cette volonté de division de l'Occident est archi-connue à travers les étapes historiques depuis les accords secret Sykes-Picot en 1916 et l'enchaînement des autres chaînes dans cette histoire des relations Occident-Orient nous a conduit jusqu'à cet état actuel où nous voyons maintenant la toute-puissance des États-Unis à vouloir imposer la démocratie en massacrant les gens, voler le pétrole en prétendant imposer un régime de liberté, alors que c'est eux qui avaient créé et Saddam Hussein,
mais oui,
quand on l'avait armé contre l'Iran,
c'est ça,
et qui avaient créé les talibans avec Ben Laden en Afghanistan, c'est eux,
c'est,
vous voyez,
c'est eux, oui.
Et c'est eux qui avaient créé Khomeini aussi, dans un souci de créer un front musulman contre le bloc soviétique. Nous en voyons les conséquences maintenant.
C'est ça.
Et dans tout cela, ces minorités chrétiennes du Proche-Orient, aux yeux des musulmans de l'Orient, passent pour être chrétiens, en connivence avec un Occident soi-disant chrétien, et qui n'a plus rien de chrétien.
C'est ça, sur la politique, quand tu l'éclaires, oui.
Et les conditions politiques et économiques qui se font de plus en plus en Orient font que de plus en plus les gens partent.
Les ventes d'armes aussi, que c'est épouvantable.
Vous voyez,
j'avais rencontré une juive à Paris il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années même, qui me disait qu'elle était contre, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, contre l'établissement de l'État d'Israël. Oui. Elle pleurait là-dessus, disant que
oui.
Israël, elle était juive et croyante,
oui.
Israël avait été dispersé dans le monde comme le levain dans la pâte.
Oui.
Et que Dieu, l'élection en question était une élection de service. Elle dit, quand on est élu par Dieu, que l'on soit juif ou chrétien, c'est pour servir. C'est pour servir et témoigner de la bonté et de la grandeur de Dieu, tel que c'est enseigné dans sa Bible à elle, et puis elle disait dans le Nouveau Testament, c'est ce que Jésus vous enseigne à vous, chrétiens. Alors, je suis complètement contre l'établissement. Elle dit, cet établissement du rassemblement du peuple juif qui vient de partout ne pourra que créer des drames épouvantables, et ce sera tragique parce que nous trahirons, en nous établissant là, notre mission qui est d'être le levain dans la pâte. Et si nous avons duré, si nous sommes toujours là, c'est signe que c'est cette vocation-là que Dieu nous demande, à nous, juifs, et aux chrétiens, et la même chose, vous vous êtes étendus partout sur la terre, c'est pour être le levain dans la pâte, signe d'amour, signe de tendresse, de pardon, etc. Elle parlait comme une chrétienne, mais elle était juive. C'était très étrange, oui. Madame Judin.
Oui.
Et elle était magnifique. Je ne sais pas ce que vous pensez d'un tel...
Madame Judin, est-ce qu'elle n'a pas écrit des livres?
Oui, je crois.
Ce nom me dit quelque chose. Ce nom me dit quelque chose.
Je devais l'interviewer à la télévision, puis elle est morte entre-temps.
Ah bien, ah bien, oui, bien.
Elle était prête à dire ces choses-là.
Ah bon, oui, bien.
Elle était très anti-sioniste.
Oui. Elle est... Sa façon de voir la présence juive à travers le monde, c'est sa façon.
Oui.
Je ne suis pas contre. Je respecte ce que chacun voit dans le plan de Dieu en ce qui le concerne. Vous voyez?
Bien, oui.
Mais l'installation de l'État d'Israël en Palestine a fini dans la logique même que craignait Madame Judin, par créer une violence infernale
qui est dure
au niveau des Juifs, qui n'ont plus rien de Juifs maintenant.
Mais non.
C'est un État qui se veut absolument comme les autres États, pire que les autres États, et qui va au-delà de toutes les législations internationales, de toutes les résolutions internationales, et qui va surtout contre une histoire où le monde arabe avait accepté le juif sans atteindre aucunement, ni à sa vie, ni à sa propriété, ni à sa, à son activité. Seul le peuple arabe et musulman avait accepté les juifs sans atteindre à leur vie, alors qu'en Occident, nous savons ce que l'Occident, y compris l'Église d'Occident, a imposé aux juifs comme antisémitisme.
C'est terrible.
Et maintenant, toute leur rancune de 1500 ans accumulée pendant cet antisémitisme occidental, ils le déversent dans le monde arabe qui les avait accueillis pendant 1500 ans.
Mm-hmm.
Comment expliquez-vous cela?
Ah, c'est un imbroglio presque impossible à solutionner si ce n'est que par un écuménisme vécu. Est-ce que notre écuménisme chrétien sera assez fort pour rallier l'Église d'Orient et l'Église d'Occident? Vous en êtes, vous, la préfiguration. Les Melkites et toutes les autres églises unies à l'Église de Rome, vous êtes cette préfiguration de l'union future. Vous êtes des héros de vivre au sein de l'Église catholique latine et de reconnaître le pape qui est latin et qui pourrait être un des vôtres. J'espère qu'un jour on aura un pape melkite. Ce serait bien, ce serait formidable. Ou un prêtre, ou un pape russe ou arménien, oui, ou pourquoi pas, hein, ce serait formidable. C'est vraiment formidable ce que vous êtes, mais est-ce que vraiment vous sentez ça venir? La Vierge ou le Christ le demande, c'est son souhait, soyez unis.
Vous voyez, avant de penser à l'écuménisme et à l'union des églises, à propos duquel le Christ et la Vierge ne cessent de crier à souffrir et un peu partout dans le monde, voyez, il faudrait que l'Église se rende compte de ce qu'elle est. Où est-elle en Occident, l'Église? Où est-elle?
Elle est certainement dans les textes que le pape signe.
Ok, mais et ces textes, comment se traduisent-ils dans le concret de la vie au niveau de tout l'engagement de l'Église occidentale?
Ils sont vécus certainement par quelques évêques ici et là, comme notre évêque ici, nous avons le primat de Québec qui vit ça.
Okay.
Et puis ça existe un peu partout, le primat de Paris aussi, et puis je pense bien que le cardinal Lustiger aussi, etc. Il y a beaucoup plus d'évêques qu'on ne pense et beaucoup plus de gens qui vivent selon l'esprit de l'Église.
Avant de parler, de dire des généralités à propos de tel ou tel évêque, moi, je veux le bloc des églises qui garde le silence vis-à-vis de problèmes concrets concernant leurs fidèles, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, concernant la justice dans le monde, concernant la justice en Palestine même, concernant la justice en Irak. Heureusement qu'il y a le pape.
Et l'Église est opposée à la guerre en Irak?
Quelle Église?
L'Église, le pape, le Vatican.
Mais je vous disais, heureusement qu'il y a le pape. Heureusement que le pape continue à crier haut et fort, en dépit de tout l'affaissement physique dont il souffre. Mais le pape a provoqué un éveil de la part de plusieurs responsables en Église, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, mais en général, en Europe, l'Église reste silencieuse. Elle est jugulée par un complexe de culpabilité vis-à-vis des Juifs qui ne lui permet de rien dire.
On n'ose pas passer pour antisémite.
Pourquoi?
La crainte.
L'Évangile se doit, nous oblige à témoigner.
Moi, je me souviens d'avoir témoigné comme ça lors d'une grande conférence à Montréal aussi. Puis j'ai vu 4 femmes venir vers moi pour m'engueuler. C'était des séfarades.
Oui.
Et c'est sûr qu'elles ne m'ont pas ménagé.
Je comprends.
Mais pourtant, je n'ai rien dit de la vérité. J'ai dit que j'étais allé en Israël et que j'avais été surpris de voir comment une grande partie des Israéliens traitaient les Israéliens arabes.
Oui.
Que j'étais scandalisé.
Oui. Et quand vous voyez maintenant les Arabes de Palestine occupés.
Ah, ça c'est plus
beau. Occupés. Tués à bout portant.
À bout portant.
Maisons détruites par des avions F-16.
Absolument.
Par des Apaches. Les oliviers,
mais
les oliviers
des missions, vous savez, à la télévision américaine, on voit, depuis même ici, des
et on leur dit rien.
Qui nous révèlent tout ça, ce qui sont faits par la défense des Palestiniens. On parle du martyr du peuple palestinien continuellement, la télévision, continuellement.
Quelle télévision?
PBS, ETV, Radio-Canada, RDI.
Bon. C'est et à quoi ça aboutit tout ça? À rien?
Ça éveille beaucoup de choses. On voit des articles dans les journaux de plus en plus. On voit des animateurs à la radio, comme j'en entendais dire samedi. C'est incroyable ce que les Juifs font aux Palestiniens. C'est intolérable.
Mais
c'est pas surprenant que les musulmans soient enragés.
Oui.
J'ai entendu ça à la radio, Radio-Canada, vers 10h samedi matin.
Oui.
À une émission très, très
Mais éclair. En attendant, la politique continue d'être la politique pro-israélienne. Et on pardonne à Israël tout.
Mais le Canada était contre la guerre en Irak. La France aussi, l'Allemagne.
N'empêche qu'elle a envoyé des soldats en Irak, avec les Américains.
Oui.
Alors que les Américains sont entrés en Irak, contrairement à toute la législation internationale et contrairement
Absolument,
aux Nations Unies.
Il devait s'appuyer
maintenant,
sur les Nations Unies.
Maintenant, on se jette au pied des États-Unis pour avoir une part dans ce qu'on appelle la reconstruction de l'Irak.
Il y a très peu de
Parce qu'il y a quelques milliards de dollars que chacun veut récolter.
Il y a très peu de condamnations officielles de ce que
Israël. Il n'y a aucune condamnation.
Il y en a.
On a pardonné aux États-Unis tout ce qu'ils ont fait et on continue jusqu'à maintenant à demander les bonnes grâces des États-Unis pour avoir accès à ce qu'on appelle la reconstruction de l'Irak dans l'espoir de faire avancer l'économie de chaque pays. France, Allemagne, Japon, Canada, etc. Quoi.
Vous aviez dit au début de l'entrevue que vous recherchiez la justice et je vois que vous la recherchez très fort.
Moi, ça me prend aux entrailles.
Et moi aussi.
Et je n'hésite pas à dire n'importe où ce que je pense. Quoi.
Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous nous avez révélé d'abord, absolument, dans le monde du merveilleux, et qui est un signe de Dieu, et qui est comme le sceau qu'il donnait à Soufanié et à vous-même, à Myrna surtout. Et je me demande jusqu'où... votre message a réussi à passer. Est-ce que vous êtes. Est-ce qu'on vous interviewe un peu partout en France? Est-ce que vos articles paraissent dans Chrétien Magazine? Est-ce qu'il y a.
Peu
d'écoute.
Chrétien Magazine publie les articles du Père Laurentin. Moi-même, je n'en vois plus à Chrétien Magazine. C'est un ami, Christian Rabaz. Mais je préfère le Père Laurentin à une plus grande audience que moi.
C'est ça.
On ne dit pas de Soufanié, vous voyez.
Lui, il a la clé.
Mais quand j'écris à d'autres personnes ou à d'autres revues ou journaux, ils ne publient rien et ils ne répondent pas. Monseigneur Lustiger ne répond pas. Chirac me répond.
Chirac vous répond et Lustiger non.
Chirac a répondu à 3 de mes lettres. Lustiger ne répond pas. Monseigneur Ricard, président de la conférence épiscopale, ne répond pas. Etchegaray ne répond pas.
Mon Dieu, puis le nouveau primat de Lyon, le jeune...
Comment il s'appelle?
Oh,
je ne sais pas.
Nom, un jeune très dans le vent, comme on dit.
Oui.
Il a l'air à pas avoir la langue dans sa poche.
Ah, j'espère bien. Beaucoup n'ont pas la langue dans leur poche, mais dès qu'il s'agit du monde arabe ou de la Palestine, ils la coupent.
C'est ça.
Ils se la coupent.
C'est terrible.
C'est terrible.
Je ne comprends pas ça.
Oui.
Eh bien... Pour conclure, je crois qu'on pourrait conclure comme
Merci.
On a commencé en
par la prière.
Par la prière.
Oui. Bien-aimé Jésus.
Comment? Vous allez me permettre, pour conclure, de dire la prière que Jésus a apprise à Myrna. Et on va la dire ensemble.
C'est ça, d'accord. Bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus toute éloge,
joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité,
par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon au-dessus de tout. Viens à moi et console-moi, et délie mes chaînes, et accorde-moi la liberté, car sans toi, ma joie est incomplète, sans toi, ma table est vide. Alors je viendrai pour dire, me voici venu, car tu m'as invité.
Amen.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.